flat on your back, you look to the sky.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chez Robin Dorcil et Camille Gros-Didier.
Bonsoir. Bienvenue à l'édition de ce jeudi 12 mars 2015. À la une ce soir...
Au Togo, la Cour constitutionnelle autorise Fornia Singbe à briguer un troisième mandat présidentiel.
C'est une décision qui ne nous surprend pas parce que nous savions que la Cour constitutionnelle n'est pas indépendante. C'est une décision qui pour nous est illégale.
On aura la réaction de Raphaël Pandé Adjaré de la Ligue togolaise des droits de l'homme.
En Somalie, une attaque des Chebab a fait au moins 12 morts à Baïdoa.
Burkina Faso, grève de 48 heures dans les universités publiques de Ouagadougou.
L'opération militaire de l'Union européenne en Centrafrique touche à sa fin.
En Irak, campagne pour la reconquête de la ville de Tikrit dans le nord. Les djihadistes ont ralenti ce jeudi la progression de l'armée et des milices chiites.
Et il y aura bien sûr les segments sur l'économie et les sports, mais tout d'abord le journal.
On commence au Togo, où la Cour constitutionnelle a validé hier soir la candidature du président sortant Fornia Singbe. Eddy Isango nous en dit plus.
Fornia Singbe briguera donc un troisième mandat le 15 avril malgré les protestations de l'opposition et de la société civile. Un projet de loi visant à limiter le nombre des mandats présidentiels avait été rejeté en juin 2014 par les parlements où les partis au pouvoir est majoritaire. Jean-Pierre Fabré, considéré comme le chef de l'opposition togolaise à la tête de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement apparaît comme le principal rival de Nyansingwe pour ces scrutins. L'opposition togolaise est divisée et peine à parler d'une seule voix. Portée au pouvoir par l'armée, à la mort du général Eyadema qui avait gouverné les Togo d'une main de fer pendant 38 ans jusqu'en 2005, Fornia Singbe a remporté en 2005 et 2010 des scrutins présidentiels aux résultats contestés par l'opposition.
Grève de 48 heures dans les universités publiques de Ouagadougou. Les étudiants regroupés au sein de l'ANEB, l'Association nationale des étudiants du Burkina, exigent de meilleures conditions de vie et de travail. Pour en savoir davantage, Bagassi Koura a joint Yves Ramdé, président de l'ANEB.
Il y a le recrutement de matériel en nombre suffisant et de qualité. La construction d'infrastructures à l'université de Ouagadougou, il faut dire qu'il y a environ 20 000 classes assises pour une population étudiantine estimée à 70 000. Il y a aussi l'amélioration des conditions de vie à travers l'augmentation des allocations servies aux étudiants. Et nous exigeons à l'heure actuelle à ce qu'on puisse nous donner des allocations appelées aides à la hauteur de 300 000 francs et le taux de la bourse à 25%, qu'on puisse arrêter de contingenter les plats au restaurant universitaire et qu'on améliore la qualité de ces plats.
Yves Ramdé de l'ANEB au Burkina. En Somalie, attaque meurtrière revendiquée ce jeudi par les islamistes d'Al-Shabaab à Baïdoa. Ils ont pris d'assaut une enceinte fortifiée abritant le siège du gouvernement local, l'aéroport, le quartier général de la force de l'Union africaine et des bureaux de l'ONU. Les premiers bilans font état d'au moins 12 morts, dont 5 insurgés. Jacques Aristide.
Les assaillants ont tiré sur plusieurs personnes à l'entrée du bâtiment avant d'y pénétrer, d'après son responsable à des forces de sécurité à Baïdoa. Trois d'entre eux sont morts en déclenchant les bombes qu'ils portaient sur eux et un quatrième a été abattu, tandis qu'un cinquième homme a été grièvement blessé d'après une source sécuritaire. Contacté par l'AFP, Abdulaziz Abou Moussa, porte-parole militaire du groupe Al-Shabaab, a revendiqué l'attaque, affirmant que le commando avait visé, dit-il, une réunion de sécurité entre le chef de l'exécutif régional, Sharif Hassan Sheikh Adan, et des responsables éthiopiens. Une source a déclaré que Sheikh Adan était sain et sauf. Il est depuis décembre à la tête du gouvernement intérimaire de la région sud-ouest, nouvelle autorité chargée d'administrer un ensemble regroupant les régions méridionales de Bé, Bakoul et de la Basse Chabelle dans le cadre du futur État fédéral somalien. Un référendum constitutionnel est prévu cette année avant les premières élections multipartites l'an prochain, un processus qui devrait doter à nouveau le pays d'une véritable autorité centrale dont il est privé depuis 1940. 1991.
Un drone américain aurait ciblé un véhicule transportant des responsables de la milice des Shebab, affirment des sources en Somalie. Elles ont déclaré à la Voix de l'Amérique que le drone a frappé un véhicule jeudi soir aux alentours de la ville de Bardere. La voiture, précise ses sources, appartient à Adan Garar, un haut responsable des services de sécurité des Shebab, Amniyat. Garar est soupçonné d'avoir entretenu des liens avec les hommes armés qui ont attaqué le centre commercial Westgate Mall en 2013, un attentat qui a coûté la vie à une soixantaine de personnes. Le véhicule ciblé par le drone a été détruit, mais voilà, on ignore si Garar a été tué.
Des mercenaires britanniques, sud-africains et ukrainiens ont été recrutés pour participer à l'offensive du gouvernement nigérian contre la milice djihadiste de Boko Haram, signalent des sources gouvernementales. Dans un entretien avec la Voix de l'Amérique, le président nigérian Goodluck Jonathan a déclaré hier que la présence des mercenaires était nécessaire, les troupes nigérianes n'ayant pas eu le temps de recevoir l'entraînement requis pour leur déploiement dans le nord du pays.
L'opération militaire de l'Union européenne en Centrafrique, l'EUFOR RCA, touche à sa fin. Lancée en avril 2014, elle doit s'achever le 15 mars. Mais différents contingents ont déjà quitté Bangui. C'est une belle mission qui a formidablement fonctionné de l'avis de tout le monde sur le terrain, a estimé le député européen Arnaud Danjean au terme d'une visite sur place avec la sous-commission défense du Parlement européen. Selon le réseau des journalistes pour les droits de l'homme, le général Philippe Pontiès, commandant de l'EUFOR RCA, s'est dit satisfait du travail mené par la force en Centrafrique. Lors d'un point de presse à Bangui, il a rappelé que l'EUFOR a aidé à sécuriser l'aéroport ainsi que les 5e et 3e arrondissements de la capitale, permettant à la vie de reprendre un cours normal.
Les deux parlements rivaux de la Libye semblent ne pas pouvoir se rencontrer comme prévu au Maroc. Aujourd'hui, le Parlement internationalement reconnu de Tobrouk a confirmé sa demande de reporter la nouvelle session pour la formation du gouvernement d'unité nationale en Libye. Tout est en place à Rabat, les journalistes sont présents, mais Mohamed Sharif du Parlement de Tobrouk a déclaré qu'ils ont besoin de plus de temps. Le chaos s'est installé en Libye depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011.
Plus de 200 sorciers ont été arrêtés depuis la mi-janvier en Tanzanie, signale l'agence France Presse qui cite des sources au sein de la police. Ces interpellations entrent dans le cadre d'une opération visant à mettre fin aux mutilations et aux meurtres d'albinos, victimes de croyances leur attribuant des pouvoirs magiques. Des guérisseurs non homologués et de prétendus devins ont été appréhendés dans plusieurs régions du nord du pays et l'opération va être étendue à l'ensemble du territoire. Une centaine d'entre eux ont déjà été déférés devant la justice, ajoute l'AFP. L'ONU a dénoncé une recrudescence depuis 2013 des attaques contre les albinos en Tanzanie. Les organes des albinos sont utilisés pour des rituels de sorcellerie ou encore dans la confection de filtres.
Washington, la Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, la progression de l'armée irakienne et des milices chiites a été ralentie aujourd'hui dans Tikrit. Selon l'agence Reuters, des échanges de tirs sporadiques avec les combattants du groupe État islamique ont été signalés au lendemain de l'entrée des forces gouvernementales dans la ville. Michel Joseph.
Les djihadistes occupent en particulier le vaste ensemble de bâtiments présidentiels construits par l'ancien dictateur irakien Saddam Hussein et l'utilisent comme quartier général. Ce complexe, ainsi que trois autres quartiers du centre de Tikrit, étaient encore tenus par les militants islamistes, selon une source au centre de commandement de l'armée irakienne. Elle ajoute que l'avancée des troupes était freinée par la présence de tireurs embusqués et de bombes posées par les djihadistes. La reprise de Tikrit par les forces gouvernementales constituerait un premier succès d'envergure pour l'armée irakienne, près d'un an après une débâcle spectaculaire qui a porté le groupe État islamique aux portes de Bagdad. Il s'agirait en outre d'une première étape en vue de la reconquête de Mossoul, la plus grande ville irakienne tenue par les djihadistes.
Sachez aussi que l'Irak a créé une brigade composée uniquement de chrétiens, une première dans les forces armées irakiennes. Cette brigade, qui est placée sous le commandement du gouvernement de la région autonome irakienne du Kurdistan, va tenter de reprendre les villes et villages chrétiens occupés par le groupe État islamique. Des milliers de chrétiens ont fui le nord de l'Irak face à l'avancée des djihadistes.
La ville de Ferguson, dans l'État du Missouri aux États-Unis, théâtre d'un nouvel incident. Deux policiers ont été grièvement blessés par balle ce matin lors d'une manifestation devant le commissariat de la ville. Le chef de la police de Saint-Louis parle d'embuscade. Salwa Jafari.
Trois coups de feu provenant de quelque part derrière les manifestants. La foule panique. Deux officiers sont à terre. L'un touché au visage, l'autre à l'épaule. Ils sont aussitôt conduits aux urgences. Leurs blessures, quoique sérieuses, ne sont pas fatales, rassure le chef de la police de Saint-Louis. Le coupable ou les coupables sont toujours en cavale et les autorités n'ont pas encore fourni d'éléments de réponse quant à leur identité. Hier, le chef de la police locale, Thomas Jackson, a annoncé sa démission après la publication d'un rapport accablant du ministère de la Justice qui détaillait les pratiques racistes de la police et de la municipalité de Ferguson. L'annonce n'a pas suffi à calmer les esprits. Quelques heures plus tard, une soixantaine de personnes s'étaient rassemblées pour protester devant le commissariat. L'incident d'aujourd'hui risque d'envenimer un climat déjà très tendu dans la ville. Ferguson a vécu l'an dernier des semaines de manifestations et d'émeutes après la mort le 12 août d'un jeune noir de 18 ans, Michael Brown, tué de 12 balles par un policier, Darren Wilson, qui a depuis quitté la police sans être poursuivi.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On enchaîne avec un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. Voilà la Minute Éco ce soir avec Nathalie Barge.
Les syndicats gabonais ne lâchent pas le morceau et dans la fonction publique, on ne compte plus les jours. Car la grève de la fonction publique, notamment des enseignants et du personnel de la santé, continue depuis des semaines. Hier, Dynamique Unitaire, qui regroupe une cinquantaine de syndicats, a conclu à des discussions infructueuses avec le gouvernement. Aujourd'hui, les cours n'ont toujours pas repris dans la majorité des lycées publics. La Guinée équatoriale lance une vaste campagne de forage de 2000 puits à la suite d'un contrat de 20 milliards de francs CFA avec l'entreprise brésilienne Efes Costa, indique la revue économique Info Plus Gabon. Bénéficieront de ce programme les zones rurales et certains secteurs de Bata et de Malabo, où les populations rencontrent des difficultés dans l'approvisionnement en eau potable. L'entreprise brésilienne envisagerait de forer un puits tous les trois jours. Chaque puits produira 15 litres d'eau par minute. L'Algérie veut relancer des projets énergétiques avec l'Union européenne pour l'aider à limiter sa dépendance à l'égard de la Russie, selon les commentaires du Premier ministre Abdelmalek Sellal, rapportés hier par la presse nationale. Monsieur Sellal a exprimé ce souhait mardi en recevant son homologue portugais Pedro Passos Coelho en visite à Alger, indique l'AFP.
Il est temps d'enchaîner avec les sports. Bagassi Koura nous a rejoint dans le studio. Bonsoir.
Oui, bonsoir Camille, bonsoir à tous.
Et on va continuer à parler, Bagassi, de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans.
Oui, l'Afrique du Sud affronte en ce moment le Mali qui mène 2-1. Et tout à l'heure, à 19h31, la Zambie joue contre le Ghana. Hier soir, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont fait match nul, 2-2. Quant au Nigeria, il a battu le Congo 4-1, se qualifiant ainsi pour la Coupe du Monde de la catégorie.
Le Zimbabwe ne pourra pas participer aux qualifications mondiales 2018 en Russie. Pourquoi ?
Voilà, le Zimbabwe a été exclu pour une raison de dette. C'est une dette non acquittée envers son ancien entraîneur brésilien, José Claudine Giorgini, dit Valinos. C'est ce qu'a annoncé la FIFA. Et la fédération zimbabwéenne, la ZIFA, comme on les appelle, avait été condamnée en août 2012 par la FIFA à payer une dette exceptionnelle à son sélectionneur de 2008. Selon son porte-parole, la ZIFA, la fédération zimbabwéenne, doit à Valinos 67 000 dollars, soit environ 63 000 euros, provenant de salaires et d'indemnités du temps de son passage à la tête de l'équipe du Zimbabwe. C'est là, le porte-parole a estimé la dette de la ZIFA à 4 millions de dollars et a appelé le gouvernement à soutenir la sélection nationale.
FIFA contre ZIFA avec Valinos au milieu.
Au milieu et beaucoup de millions. Hein.
Football en Europe, qualification du Paris Saint-Germain et du Bayern de Munich en quart de finale de la Ligue des Champions.
Oui, le PSG en déplacement à Chelsea a réalisé l'exploit avec 2-2 après prolongation et à 10 contre 11. Car le meilleur joueur du PSG, Zlatan Ibrahimovic, avait déjà été expulsé dès la première mi-temps pour une faute sur un joueur anglais. Au match aller, chez Roubaix, les deux équipes avaient fait match nul un but partout au Parc des Princes.
Et en 10 secondes, quelques résultats en basketball.
Eh bien, Sacramento a battu les Charlotte Bobcats 113 à 106. Victoire des Bulls de Chicago sur Philadelphie 104 à 95. Peu de chance également pour Brooklyn face à Miami 98 à 104.
Vous en avez pris 13, Bagassi. Merci quand même.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Camille Grosdidier, Chérubin Dorcil, en votre compagnie. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui et voici place au dossier du jour. La première escale ce soir, c'est au Togo. Le Togo, où la candidature de Faure Gnassingbé à sa propre réélection vient d'obtenir l'aval de la Cour constitutionnelle.
C'était hier soir, Camille. La Cour a validé la candidature du président sortant. Celui-ci briguera donc un troisième mandat le 15 avril, malgré les protestations de l'opposition et de la société civile. Pour une réaction, Bagassi Koura a joint à Lomé Raphaël Adjaré de la Ligue togolaise des droits de l'homme.
C'est une décision qui ne nous surprend pas parce que nous savions que la Cour constitutionnelle n'est pas indépendante. Ensuite, c'est une décision qui pour nous est illégale parce que ce que la Cour constitutionnelle vient purement et simplement de valider et d'autoriser ce qui s'est passé en 2005 se reproduire sur la terre de nos aïeux. Puisque la Cour constitutionnelle sait aujourd'hui que nous allons à ces élections sans réforme.
Et est-ce que vous avez peur pour la transparence du scrutin d'avril?
Effectivement, nous avons peur. Nous avons projeté même une manifestation ce matin pour dire non. Les partis politiques demandent l'audit du fichier électoral qui est corrompu. Le ministre de l'administration territoriale dit qu'il y a des doublons dans le fichier électoral.
Est-ce qu'on peut imaginer que l'opposition se mette ensemble derrière un seul candidat, comme Jean-Pierre Fabre, par exemple, pour faire face à Faure Gnassingbé?
Je crois qu'il y a une opposition qui s'est réunie au sein du CAP 2015 dans la candidature avec le président Fabre, Jean-Pierre. Mais aujourd'hui, au sein même de cette organisation, il y a des divisions.
Raphaël Adjaré, de la Ligue togolaise des droits de l'homme, joint à Lomé, au Togo.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Ici Washington, les syndicats gabonais ne lâchent pas le morceau. Depuis plus d'un mois, la grève continue dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Mardi, le gouvernement a demandé aux fonctionnaires de reprendre le travail et il a menacé de suspendre les salaires. Les grévistes réclament l'augmentation du SMIG de 80 000 francs CFA à 300 000 francs CFA. Nathalie Barge a joint à Mouila dans le sud Alain Mouagouadi, membre du collège des leaders de la dynamique unitaire.
C'est le statu quo total jusqu'à ce jour. Et ils sont plutôt passés par les intimidations parce que le porte-parole du gouvernement a intervenu il y a deux jours pour dire que s'il y a une banque au Gabon, disons qu'ils vont suspendre les salaires des travailleurs gabonais si nous continuons à faire grève. Et parce qu'ils ont également payé la PIP, qui est la prime d'incitation à la performance. La PIP n'était pas une revendication de la dynamique unitaire. L'unique revendication de la dynamique unitaire, c'était l'augmentation des salaires. Jusqu'à ce jour, nous n'avons aucune proposition concrète. Ils préfèrent plutôt passer par les intimidations et par les menaces. Et nous disons que nous n'allons pas céder à ces intimidations. Nous voulons tout simplement que le gouvernement gabonais accède à un engagement.
C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas l'intention d'augmenter le SMIG ?
Jusqu'à ce jour, malgré les discours du président de la République, le gouvernement refuse catégoriquement d'augmenter le SMIG. Il refuse de s'engager sous prétexte qu'ils vont mettre en place un nouveau système de rémunération.
Mais ça, ce sera en juillet, non, ce nouveau système, non?
Oui, mais nous refusons d'attendre juillet. Nous demandons que le SMIG et le point d'indice soient revalorisés parce qu'actuellement au Gabon, les pensions reçues par les agents qui vont à la retraite sont dérisoires. Si l'État gabonais veut régler le problème, ce sera à l'État gabonais de sauver l'année blanche parce que ce sont eux qui sont des élus et qui rendent compte au peuple gabonais. Nous sommes des représentants des travailleurs. Si aujourd'hui les travailleurs gabonais continuent à faire grève, malgré les intimidations et les propos du porte-parole du président de la République, ça veut donc dire que chacun d'entre nous sommes déterminés à faire aboutir cette revendication qui est l'augmentation salariale.
Mais comment faites-vous pour tenir? Parce que tout ceci, ça traîne depuis à peu près 2011, vous avez fait plusieurs grèves.
Tout à fait, il y a plusieurs problèmes, plusieurs engagements pris par le gouvernement gabonais qui ne sont pas tenus. Mais nous refusons d'être discrets avec les autres engagements. C'est pourquoi nous nous sommes focalisés sur l'augmentation salariale et que les syndicats sectoriels comme la CONACYCED continuent à mener le combat des revendications sectorielles comme les postes budgétaires dont a parlé le gouvernement. Ils ont dit qu'ils vont intégrer près de 300 enseignants du pré-primaire qui, pour certains, attendent leur intégration dans la fonction publique depuis bientôt 15 ans. Ce sont des problèmes vieux, mais malheureusement, lorsque nous sommes déterminés à faire aboutir ces revendications, la seule réponse que brandit le gouvernement, c'est souvent les intimidations. Et ça, malheureusement, nous sommes habitués et nous sommes cette fois déterminés et nous n'allons pas lâcher.
Monsieur Raphaël Adjaré de la Ligue togolaise des droits de l'homme, il était joint. Monsieur Alain Mouagouadi, membre du Collège des leaders de la dynamique unitaire, joint au Gabon par Nathalie Barge.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
On met le cap sur la RDC. Le chef de la mission onusienne, la MONUSCO, Martin Kobler, appelle à un dialogue stratégique permanent et un pacte de confiance avec le gouvernement congolais pour décanter la situation. De quoi s'agit-il? Eh bien, la MONUSCO a annulé sa participation aux opérations des troupes congolaises contre les rebelles des FDLR suite au refus de Kinshasa de retirer deux généraux accusés par la mission onusienne de violation des droits humains. Écoutons Martin Kobler.
Le point de départ, c'était la nomination des deux généraux et nous avons maintenant un dialogue avec le gouvernement pour régler le problème. Point de départ, c'était vraiment l'initiative du gouvernement. On avait une planification excellente des opérations contre les FDLR qui maintenant est vraiment bloquée. On était forcé de couper le soutien selon notre politique des droits de l'homme. Nous partageons les mêmes objectifs. De protéger les droits de l'homme. C'est l'objectif du gouvernement, c'est l'objectif de la MONUSCO. Je suis très, très confiant. On va résoudre le problème ici. C'est très important de maintenant rétablir la confiance. Il faut avoir un pacte de confiance avec le gouvernement. Pas d'être ici avec les actions unilatérales de la part des FRDC. Et la MONUSCO est un peu bloquée et paralysée maintenant dans ses actions contre les FDLR. On veut le faire ensemble avec les FRDC. Parce que nous avons beaucoup à offrir qui peut soutenir les actions qui sont menées par les FRDC dans leur combat contre les FDLR. Ce dialogue stratégique, c'est important d'avoir, c'est ce que j'ai proposé aussi au gouvernement, un dialogue stratégique permanent avec le gouvernement sur ces divergences. C'est la question des droits de l'homme. Ce sont les rapports du Bureau conjoint des droits de l'homme. Il faut avoir un dialogue. Ici, je dois admettre, on peut améliorer la transparence. La MONUSCO peut vraiment améliorer la transparence en ce qui concerne la politique avec le gouvernement.
Le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, dans un extrait fourni par notre station partenaire Top Congo FM à Kinshasa.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
L'Organisation mondiale de la santé et le Programme alimentaire mondial des Nations unies ont annoncé un nouveau partenariat dans les pays où sévit le virus Ebola, à savoir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone.
Le nouveau dispositif vise à aider à ramener à zéro le nombre des cas de la fièvre hémorragique en Afrique de l'Ouest, tout en mettant en place une infrastructure d'alerte et de riposte pour de futures crises. Vous avez joint Camille Gouadidier et Elisabeth Beers, porte-parole du PAM.
Ce nouveau partenariat, en fait, concrétise une coopération très importante, va la renforcer, va permettre à l'OMS, qui apporte son expertise médicale, de mieux soigner, de mieux atteindre les personnes qui ont besoin de leur aide et d'être beaucoup plus efficace. Ça va nous permettre de montrer en puissance et de consolider les progrès qui ont été faits dans la lutte contre Ebola en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Donc, bien sûr, aider l'OMS à travailler, à traiter, mais aussi à prévenir l'infection, à lutter également contre le retour du virus ou de son extension, également à permettre au personnel de santé de travailler au mieux, et ça va permettre aussi de jeter les bases d'une future collaboration dans le même style s'il y a d'autres urgences de santé un jour dans le monde.
Le PAM va veiller à ce que les agents de l'OMS qui traquent l'Ebola aient les ressources nécessaires, entre autres le matériel informatique ou les téléphones.
Le programme alimentaire mondial, c'est et une énorme machine logistique au service de la communauté internationale et aussi des experts en télécommunications. Donc nous allons pouvoir renforcer l'aide dans ces deux domaines. Nous avons déjà une très forte présence opérationnelle en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. On apporte un support logistique aussi bien au personnel médical que non médical, par air, par mer et par transport routier. Et les experts logistiques du PAM sont là et vont augmenter justement le réseau logistique pour assurer un approvisionnement ininterrompu d'équipements de protection du personnel médical et également de tout le matériel médical qui est vital pour traiter les cas d'Ebola. Et nous avons également renforcé notre corridor humanitaire aérien pour permettre de relier de façon extrêmement efficace les trois pays de la région pour transporter non seulement les travailleurs de santé, mais aussi l'aide médicale et l'aide matérielle. Et jusqu'à présent, le programme alimentaire mondial a transporté 9000 passagers à travers ce service aérien humanitaire.
C'était donc Elisabeth Burse, porte-parole du PAM.
Lutte contre le virus Ebola. VOA Afrique se mobilise. Rejoignez-nous sur WhatsApp. C'est simple, ouvrez l'application smartphone WhatsApp et envoyez Ebola au numéro suivant 1 202 257 35 83. Je répète, 1 202 257 35 83. Vous recevrez des infos et des conseils de prévention contre le virus. Restez informés, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Peace Africa. Eh bien, pour conclure cette édition du Monde aujourd'hui, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Au Togo, la Cour constitutionnelle autorise Fornia Singbe à briguer un troisième mandat présidentiel, une décision vivement critiquée par l'opposition et la société civile.
En Somalie, une attaque des Chebabs fait au moins 12 morts à Baïdoa.
Burkina Faso, grève de 48 heures dans les universités publiques de Ouagadougou.
L'opération militaire de l'Union européenne en Centrafrique touche à sa fin.
En Irak, campagne pour la reconquête de la ville de Tikrit dans le nord. Les djihadistes ont ralenti ce jeudi la progression de l'armée et des milices chiites.
Le secrétaire d'État américain John Kerry arrive en Égypte demain. C'est pour assister à une conférence économique de 3 jours et des entretiens sur la lutte contre le groupe État islamique, la crise en Libye, mais aussi le conflit en Syrie.
Au Missouri, la ville de Ferguson, théâtre d'un nouvel incident. 2 policiers ont été grièvement blessés par balle ce matin lors d'une manifestation devant le commissariat de la ville. Le chef de la police de Saint Louis et le département américain de la justice parlent d'embuscade. Et Camille, un coup d'œil rapide sur la météo ici à Washington, 14 degrés Celsius. Celsius, 28 à Kinshasa, 25 à Bujumbura, 22 degrés à Dakar, où nous saluons les auditeurs du 102 FM, la nouvelle fréquence VOA Afrique.
Voilà la mise en onde de ce soir, Michel Joseph. Présentation Camille Grosdidier, Chérubin Dorsil. Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et bien sûr sur notre site internet voaafrique.com. Une très bonne soirée.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Brazzaville sur 101.9 FM, 99 FM Abidjan, à Lomé 93.5 FM, 101.7 FM Kankuzo Burundi et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.